Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette dernière vadrouille de la saison. Je vous le dis tout de suite, il y en aura d'autres. Et on se met d'abord au rythme de la petite reine. Le Tour de France vient de démarrer à Bruxelles devant un public de connaisseurs. Les Belges sont de grands fans du vélo, on les entendra. On voyagera ensuite aux États-Unis et dans le temps, retour à Woodstock et rencontre avec le couple qui est devenu un peu le symbole de ce rassemblement hippie, peace and love. C'était il y a 50 ans, sans le vouloir, Bobby et Nick se sont retrouvés sur la pochette de l'album.
À cette époque, c'était l'amour libre, la vie en communauté. Les gens ne restaient pas ensemble. On y est allés comme petits copains et petites amies. Et puis deux ans après, on s'est mariés. Et voilà, 50 ans plus tard, on s'éclate toujours.
On se mettra aussi au rythme des vacances. Les vacances à la russe, avec une petite virée à la datcha. C'est la maison de campagne héritée de l'ère soviétique, très typique et traditionnelle. Et puis on s'interrogera sur l'impact de ces méga paquebots qui s'arriment dans les ports et sont responsables d'une inflation, d'une pollution, comme ici, à Palma de Mallorca, en Espagne.
Tu vois que là, on voit la mer et même l'autre partie de la baie de Palma. Mais à partir de 20h, il y a toujours un immense bateau de croisière avec ses lumières et sa musique qui vient se mettre devant. C'est comme s'il construisait un immeuble en face de chez moi. La seule chose qu'on a devant nous, c'est un nuage de pollution et du bruit.
Je vous emmènerai aussi découvrir des lieux à part en Égypte et en Afghanistan. Des cafés fréquentés par des jeunes qui viennent y chercher une bouffée de liberté et de culture. Et d'ailleurs, à propos de culture, Nicolas Caro viendra avec 3 conseils de lecture pour passer un bon été. Quant à Joseph Chovanec, il partagera avec nous son rêve de devenir bricoleur pour pouvoir façonner son environnement comme le font tous ces gens qu'il a croisés en voyage. Les carnets du monde sont ouverts et on file d'abord à Bruxelles d'un bon coup de pédale. C'est donc parti pour la 106e édition du Tour de France et parti de Belgique, notre petit voisin mais très grand pays du vélo. C'est là-bas qu'on retrouve Axel May qui couvre cette grande boucle pour Europe 1. Bonjour Axel.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Jeudi à Bruxelles, il y avait 65 000 personnes massées dans les rues pour acclamer les 176 coureurs qui allaient prendre le départ samedi. Axel, racontez-nous cette ferveur populaire incroyable en Belgique, au pays d'Eddy Merckx, quand on évoque la petite reine.
Il fallait voir l'ambiance sur la grande place de Bruxelles où les supporters et les fanats de vélo ont assisté jeudi soir à la traditionnelle présentation des équipes. Et lorsque la star Eddy Merckx est apparue sur scène, sur le podium géant installé sur la grande place, ça a donné ça.
En 1969, il remportait le maillot jaune, le maillot vert, le Grand Prix de la montagne, le classement par équipe, celui du combiné et du plus combatif. En réalité, cette année-là, il y a 50 ans, Eddy Merckx a remporté tous les classements du jamais vu. Il appartient au patrimoine universel de l'effort humain, disait Antoine Blondin.
Alors Antoine Blondin, l'homme de lettres qui était autant écrivain que journaliste et dont les chroniques dans la presse ont contribué à forger la légende de la Grande Boucle. En 1969, Eddy Merckx remportait le premier de ses 5 Tours de France. Il avait été acclamé comme un héros par la foule rassemblée sur la Grand Place. 50 ans plus tard, l'hommage était encore vibrant.
Ce tour en fait, ce tour, c'est votre cadeau à la Belgique, Eddy Merckx. Vous nous aviez dit, j'ai eu la chair de poule. Ce jour-là, c'est exact ?
Oui, oui.
Eh bien, est-ce que vous seriez d'accord d'avoir de nouveau la chair de poule maintenant ?
Absolument.
On va, la Grand Place de Bruxelles, va redonner la chair de poule à Eddy Merckx. Vous êtes capable de lancer ce défi ?
Eddy !
Voilà. On dit d'ailleurs en Belgique, je crois, qu'il y a 2 rois, Axel, n'est-ce pas ?
Oui, le roi Philippe, ouais. Fils d'Albert II, et le roi Eddy, un signe de sa popularité, une station de métro porte son nom à Bruxelles et le bourgmestre, le maire de la ville, n'hésite pas à dire que Merckx est plus célèbre que l'Atomium qui trône au nord de Bruxelles depuis l'exposition universelle de 1958, année où le tour s'était lancé une première fois de la capitale belge.
Alors cette passion pour Eddy Merckx, elle illustre en fait la passion de tout un peuple pour le cyclisme.
un sport qui fait partie de notre culture nationale, renchérit le bourgmestre de Bruxelles. Ce que résume ainsi le champion olympique de cyclisme sur route, le Belge Greg Van Avermaet. Notre pays est fou de vélo et va faire la fête autour, vous pouvez me croire. Marc Madiot, manager de l'équipe Groupama FDJ, celle de Thibaut Pinot, adore les classiques de printemps sur le sol belge. On citera le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne ou encore Liège-Bastogne-Liège.
Oui, ici c'est la Mecque du cyclisme. Pour moi, c'est la terre natale du cyclisme, c'est ici. Il y a une connaissance, une reconnaissance de la course et des coureurs qu'on a que dans très peu d'endroits par ailleurs dans le monde. Si, je pense en Bretagne. Le public du Tour de France dans sa globalité n'est pas un grand public de très connaisseurs. C'est un public de vacances, de bons moments à passer sur le bord des routes, qui connaît et qui reconnaît la course. Mais il n'y a pas la même façon d'observer le déroulé de la course qu'on peut l'avoir ici en Belgique, comme on peut l'avoir ici en Belgique. Ça, c'est clair. Ici, c'est un public... on sent la ferveur ici, on la sent.
Alors cette ferveur que décrit Marc Madiot, vous l'avez retrouvée aussi chez les plus jeunes, Axel.
Oui, par exemple, Arthur, 12 ans, il est membre d'un club cycliste en Wallonie et il est venu assister au départ. Il a même roulé avec un maillot jaune devant le public du Tour de France.
Mais c'est quand même cool parce que c'est le Tour de France, c'est pas le Tour de Belgique.
Et toi, t'as envie de faire du vélo ou pour devenir un champion ?
Faire du vélo pour faire du vélo.
Et quand on te demande un nom de champion belge, tu penses à qui ?
Philippe Gilbert et Tim Wellens et...
Et un champion plus ancien ?
Tom Bonan.
Et encore plus ancien ? Même plus âgé que ton papa ?
Eddie Merckx.
Voilà, et Bjorn, lui, est flamand, où la passion du cyclisme est réputée supérieure à la Wallonie. Il fait du vélo à un bon niveau amateur et s'en sert aussi comme moyen de locomotion quotidien.
Je me déplace d'où j'habite, vers Bruxelles. C'est 30 km aller, alors ça veut dire 60 km par jour. Et je fais déjà ça 17 ans et environ 20-22 000 km par an que je fais en vélo.
Même s'il pleut, oui. Même s'il fait froid.
Chaque jour, pleut, neige, tout. Je roule toujours.
60 km par jour, respect. Hein. Axel, c'est pour de vrai cette différence entre les Flamands et les Wallons dont vous parliez ?
Oui, en tout cas Gérard, qui est cycliste et qui est le père d'Arthur, le jeune que vous avez entendu il y a quelques instants, est catégorique.
Oui, point de vue infrastructure, point de vue mentalité, c'est terrible, oui. La Flandre, c'est vraiment le vélo, respect du vélo, infrastructure pour le vélo. Et la Wallonie, c'est pas du tout pour le vélo.
Et quand on en fait à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, ils vous disent on a plein de pistes cyclables et tout.
Non, il faut être un peu suicidaire, il faut du vélo, c'est les bobos.
Les bobos, les cyclistes de Bruxelles apprécieront. Hein.
Oui, alors je donne juste quelques données chiffrées pour terminer et qui montrent que la Belgique a quand même de l'avance sur la France. La Belgique mesure en son point le plus large, 280 km, et possède, si l'on en croit les chiffres officiels, tenez-vous bien, 14 500 km de pistes cyclables.
Ah ouais, je crois qu'on n'en est pas là chez nous, même si c'est difficile à évaluer, hein, parce que le chiffre n'existe pas ici. En tout cas, on a une bonne marge, parce que seulement 3% des déplacements en France se font à vélo. Voilà, merci beaucoup Axel. Je vous souhaite un excellent Tour de France. Vous nous le ferez vivre avec Marguerite Lefebvre sur Europe 1 jusqu'au 28 juillet et cette arrivée légendaire sur les Champs-Élysées.
Merci, à très vite.
Europe 1.
Autre performance, Woodstock, c'était il y a presque 50 ans et tout le monde garde en mémoire la photo de l'album. Un couple debout dans la boue, enlacé et blotti dans une couverture. Ces deux-là sont toujours ensemble et toujours amoureux. On va les rencontrer.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est jusqu'à 14h sur Europe 1 pour ces derniers carnets de la saison. On anticipe un peu un anniversaire qui aura lieu au cœur de l'été, celui du légendaire festival de Woodstock, Sophie Larmoyer.
C'était il y a presque 50 ans, mi-août 1969, pas très loin de Woodstock dans l'État de New York. Quelques jours de festival devenus mythiques, 50 000 personnes attendues, près de 10 fois plus finalement venues écouter les concerts de 32 groupes et chanteurs pendant 4 jours.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, how did I? Yeah, yeah, that one's that way.
With a little help from my friends, on aura tous reconnu la reprise de la chanson des Beatles par Joe Cocker. C'était à Woodstock. Et tout le monde connaît la photo sur l'album Woodstock, qui est devenu le symbole de cette génération. Dans la lumière de l'aube, au milieu d'une marée humaine couchée dans la boue, un couple est debout, enlacé, enroulé dans une couverture. Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes avec nous depuis New York. Alors ce couple sur la photo, c'est deux dont on va parler aujourd'hui, parce que leur histoire est assez extraordinaire. 50 ans après, ils sont toujours ensemble, ils vivent toujours à côté de Woodstock, et vous les avez rencontrés.
Oui, elle, Bobby, ne porte plus ses grandes lunettes rondes comme sur la photo, et lui, Nick, n'a plus tout à fait la même chevelure, mais ils ont l'air encore tout aussi amoureux et tendres que sur la photo. Bobby et Nick Ercoline, ils habitent une maison tout en peace and love, c'est même écrit sur les marches de leur perron quand on arrive. Ils coulent une vie paisible de retraités, bercée par les oiseaux et les carillons à vent de leur terrasse. Lui était menuisier, elle infirmière scolaire. Sur le frigo, il y a les visages de leurs deux fils et de leurs quatre petits-enfants. Et bien sûr, la photo de l'album est-elle affichée en grand sur un mur? Ils la regardent tous les jours. Elle fait partie de notre vie, disent-ils, ravis d'être devenu le symbole d'une génération, alors qu'il ne rentre pas vraiment dans le cliché hippie, comme l'explique Nick.
À cette époque, c'était l'amour libre, la vie en communauté. Les gens ne restaient pas ensemble. Et nous sommes l'opposé de ça, en quelque sorte. On y est allé comme petits copains et petits amis. Et puis deux ans après, on s'est mariés. Et voilà, 50 ans plus tard, on s'éclate toujours.
Et au moment de Woodstock, ça faisait 3 mois que Bobby et Nick sortaient ensemble. Ils habitaient déjà dans les environs de Bethel. C'est l'endroit exact où a eu lieu le festival, à 180 km au nord de New York. Ils en avaient entendu parler, mais ils n'avaient pas particulièrement l'intention d'y aller. Le 15 août 1969, ils entendent à la radio le présentateur surexcité dire qu'il y a tellement de monde que les routes sont bloquées et que surtout, il ne faut pas essayer d'y aller.
Et donc, ils n'ont pas suivi ce conseil, visiblement.
Ah ben non, on avait 20 ans, dit Bobby en rigolant. Alors, évidemment, ils se sont précipités.
Nous avons garé notre voiture avec des milliers et des milliers de voitures que les gens avaient juste laissées n'importe où. Sur les bords de route, dans les champs, dans les bois, sur les pelouses des maisons, dans les allées. Comme ils ne pouvaient plus avancer, ils les avaient juste abandonnées. Certains se sont mis à camper sur place, d'autres à marcher vers le festival comme nous. Et il n'y avait aucune technologie. Il n'y avait personne pour nous envoyer des SMS ou des photos pour nous dire vers quoi on allait. Mais on pouvait sentir l'excitation parce que des milliers de personnes marchaient toutes dans la même direction. Sur la petite route de campagne, vous pouviez entendre le claquement de pieds nus ou de sandales sur l'asphalte. C'était juste merveilleux.
Alors, je suis retourné sur place avec eux, c'est à 3/4 de route de leur maison, une grande pelouse à flanc de colline, un amphithéâtre naturel, comme ils le disent. Ils m'ont montré l'endroit d'abord où se trouvait la scène, et puis celui où ils se sont installés il y a 50 ans, quelque part au sommet de la colline. De là-haut, ils écoutent Janis Joplin, les Who, mais ce n'est pas le concert en lui-même qui frappe Bobby et Nick, c'est l'atmosphère si particulière créée par ce demi-million de personnes, un bain de peace and love.
De là où nous étions, au sommet de la colline, nous ne pouvions pas voir la scène, mais nous pouvions voir comme une brume se lever. C'était la moiteur de l'air, la fumée des feux de camp mélangée aux lumières orange de la scène. Ça donnait à tout un aspect doré. En dessous de la musique des artistes, on pouvait entendre le murmure de l'humanité qui nous entourait, un océan d'humanité. Ces instantanées de vie autour de nous, il y avait des familles, des couples, des groupes, des enfants. Certains chantaient ou dansaient. Tout était paix, gentillesse, amour. Vous saviez que vous étiez au milieu de quelque chose qui ne se reproduirait probablement jamais.
Et comme tout le monde, Bobby et Nick dorment sur place, à même le sol. Au petit matin, ils se lèvent, les yeux embués. Nick enlace Bobby dans une grande couverture. Un photographe passe. Et voilà, et ce moment de tendresse est immortalisé et il devient un symbole.
Alors justement, à quel moment ils se sont rendus compte que c'était eux sur la couverture de l'album ?
Ah bah alors assez vite, hein, quand le disque est sorti quelques mois plus tard, c'est un de leurs amis qui l'a acheté. D'ailleurs, c'est celui qu'on voit dormir allongé au pied du couple sur la photo. À ce moment-là, bon, ils ont trouvé ça amusant, mais c'était pas un big deal, comme on dit, c'était pas important. Parce qu'à cette époque, dans la région, Woodstock avait laissé un très mauvais souvenir et il n'était pas très bon d'y être associé.
Après le concert, le comté de Sullivan était dévasté. Avec la quantité de déchets, de voitures abandonnées, ce pauvre petit comté a dû dépenser des milliers de dollars pour nettoyer. Les fermiers ont dû jeter leur lait pendant 3 à 5 jours parce qu'ils ne pouvaient pas faire venir les camions. Ça a été une grosse perte pour ce comté. Et donc Woodstock n'était pas évoqué avec enthousiasme.
Et c'est seulement lors du 20e anniversaire que Bobby et Nick ont été identifiés, comme ils disent, publiquement, pour son numéro spécial, le grand magazine Life, qui n'existe plus, mais qui est une sorte équivalent de Paris Match. Le grand magazine Life les a donc retrouvés. Et depuis, ils sont devenus un peu les dépositaires de l'esprit Woodstock.
Alors justement, eux qui ont vécu ce moment d'histoire des États-Unis, la fin des années 60, mouvementée, comment voient-ils notre époque maintenant ?
Bah, ils font un parallèle, alors même s'ils ne veulent pas parler de politique, ils sont perturbés, disent-ils, par les divisions, le climat délétère dans la société américaine, dont le symptôme le plus évident a été évidemment l'élection de Donald Trump.
C'était une époque très troublée dans le pays à ce moment-là. Il y avait tellement de divisions, la lutte pour les droits civiques, les droits des femmes, la guerre du Vietnam, les assassinats politiques et la musique, c'était ce qui nous rassemblait tous.
C'est comme si nous ne nous rappelions pas de ce qui s'était passé il y a 50 ans. Et ça recommence aujourd'hui. J'attends de la musique qu'elle envoie des messages à la jeune génération qui veut protester. La musique peut être un outil très puissant, mais on ne l'utilise pas comme tel aujourd'hui. C'est pas comme il y a 50 ans. Les artistes s'impliquaient vraiment. Et je ne les entends pas aujourd'hui. On parle de soi, d'argent.
Nous avons besoin de nous aimer.
Oui, nous avons besoin de moins de colère, c'est tout.
Et tous les deux concluent en chœur, le monde aurait bien besoin d'un peu plus de Woodstock.
Voilà, et il y aura d'ailleurs le mois prochain un festival anniversaire, hein, Woodstock 50.
Exactement.
Bobby et Nick y vont ?
Ah, ils y seront évidemment sur le site original, ils ont déjà tout prévu.
Super, merci beaucoup Xavier pour ce petit revival, presque 50 ans après le festival de Woodstock. À très bientôt.
À bientôt, bel été.
Merci. Europe 1. À suivre, un petit coup de pouce de Nicolas Caro pour vous aider à choisir quelques bons bouquins à mettre dans la valise.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h19, l'heure d'un livre dans le monde, Sophie Larmoyer, ou la découverte d'auteurs de littérature étrangère, et ce grâce à Nicolas Caro.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
C'est le début des grandes vacances, comme on dit à l'école, et on se demande ce qu'on emporte comme bon bouquin dans la valise. Et donc cette semaine, ce n'est pas une, mais trois escales littéraires que vous nous proposez.
Bah oui, je vous laisse du stock. Je vous propose d'abord une escapade dans les Caraïbes, avec de l'aventure de la vraie à l'ancienne. D'ailleurs, c'est dans le titre « Aventure dans les Caraïbes », signé Henry Pittman chez Anacarsis. C'est une maison d'édition qui a l'habitude d'exhumer et publier de vrais récits d'aventures et des témoignages.
Donc c'est une histoire vraie, ces aventures dans les Caraïbes.
Absolument. Henry Pittman était chirurgien en Angleterre à la fin du XVIIe siècle. Il était au service du duc de Monmouth, un grand personnage de l'époque qui s'est rebellé contre le roi Charles II. Henry Pittman a été capturé et exilé loin, très loin, dans les Caraïbes, à la Barbade. Son frère aussi est parti avec lui. Ils travaillent tous les deux avec les autres dans les champs de canne à sucre pour la gloire de l'Angleterre, mais ils sont roués de coups régulièrement. Et un jour, William Pittman, donc le frère d'Henry, meurt à cause de la fatigue et des conditions de vie. C'est à ce moment-là qu'Henry décide de s'évader. Mais s'évader, quand vous êtes dans les Caraïbes, ça veut dire s'engager sur une mer hostile, peuplée de pirates et de flibustiers. Ils vont réussir, mais échouer sur une île déserte avec toutes les péripéties qui vont avec.
On dirait Robinson Crusoe.
Ben oui, d'ailleurs le livre a été écrit avant l'écriture du roman. Henry Pittman fait partie de ceux qui ont inspiré Daniel Defoe, l'auteur de Robinson.
Aventure dans les Caraïbes, donc chez Anacarsis.
Ah, c'est pas facile.
Et encore quoi d'autre ?
Alors, rien à voir, le roman de Jenny Zheng, Âpre cœur, Âpre cœur, aux éditions Piquier, c'est l'une des claques littéraires de cette année, on en avait parlé Sophie. Nous sommes avec des migrants chinois, ils sont arrivés aux États-Unis et comme dit la jeune narratrice au début, on nous avait dit que la première année était forcément dure mais on ne nous avait pas prévenu pour la deuxième. Et effectivement, c'est dur, très dur, ce sont les misérables en fait, mais en pire, ça commence comme ça, c'est Christina qui parle, elle vit avec ses parents dans un taudis. À cette époque, on habitait dans un deux pièces si insalubre qu'en se réveillant, on trouvait trouvait des cafards écrasés entre nos draps, parfois même 3 ou 4 collés sur nos coudes. Et un jour, j'en avais 14 pressés contre mes mollets. Et
j'avais déjà trouvé ça dégoûtant la première fois que vous me l'aviez lu. Bonne ambiance.
Encore, je vous ai épargné les passages les plus gores. Je vous le dis tout de suite, c'est un livre très cru. Dans sa critique, le New Yorker a écrit « obscène, beau et bouleversant ». Et c'est vrai, ça prend pas de pincettes. C'en est dérangeant même parfois, mais du coup, ça sonne très juste. Le langage s'accorde avec la situation. Les parents et leurs filles déménagent tout le temps de chambre collective délabrée en chambre collective délabrée. Ils n'ont les moyens de rien, mais en fait, dans ce décor super glauque, ce qui les maintient en vie, c'est l'amour inconditionnel entre eux. C'est ça ce qui est beau. Ensuite, on change de chapitre et de voix, on change de narratrice. En tout, ce sont 7 préadolescentes asiatiques qui nous racontent la difficulté de s'insérer dans la société américaine dans les années 90.
Je me souviens que vous aviez été très séduit par le style de ce roman.
Ah oui, c'est virtuose. C'est pour ça que ça a bien marché d'ailleurs ce livre. Jenny Zhang donne la parole à des enfants, en fait des filles, et sa manière d'écrire avec une certaine violence mais aussi une forme de réalisme, c'est ça ce qui donne la force au roman. Santiago Artoski, son traducteur.
C'est le tour de force qu'elle a réussi, quoi. C'est-à-dire que ces héroïnes sont des enfants, hein, et elles parlent avec une voix d'enfant, mais elles parlent aussi avec une voix d'adulte. Et elle a réussi à manier les deux et à rendre ça crédible. C'était d'ailleurs un des défis de la traduction que de traduire ça en français et de parvenir au même résultat, c'est-à-dire avoir des propos complètement obscènes, voire scato par moment, et en même temps faire sentir quand même que c'est une enfant qui parle avec un imaginaire et une voix d'enfant, quoi.
Âpre cœur donc aux éditions Piquier. Un dernier petit conseil pour la route, Nicolas.
Oui, un facile. Le dernier America vient de paraître et il est beau, très beau. C'est la revue américaine America, vous savez, qui observe les États-Unis de Trump par le prisme des écrivains. Le 10e numéro s'intéresse à l'American Dream. Que reste-t-il du rêve américain? On y trouve aussi un dossier sur Salinger, l'auteur de l'attrape-cœur. Un grand entretien avec T.C. Boyle. Chez eux, grand entretien, ça veut dire plus d'une vingtaine de pages. Il y a un texte de David Vann aussi, l'auteur de Sequoia Island, où une analyse de Lionel Shriver, l'auteur de We Need to Talk About Kevin, qui parle de Trump. L'article est intitulé « Pourquoi Trump nous rend fous ?» Ensuite, il n'en restera plus que 6, puisque la revue est censée s'arrêter en même temps
pour
que le mandat de Donald Trump. Et si vous collectionnez tous les numéros, d'ailleurs, la tranche des revues dessinera une grande carte des États-Unis.
Il faut que je les retrouve tous, alors qu'ils doivent être quelque part. On récapitule. Aventure dans les Caraïbes d'Henri Pittman. Âpre cœur de Jenny Zhang et la revue America. Merci beaucoup Nicolas. On vous retrouve cet été sur Europe 1.
Oui, on va parler des légendes, des vampires, des monstres, etc.
Ce sera quand?
Ce sera le dimanche à 13h.
Eh ben formidable! Justement, c'est un moment qu'on connaît bien. Merci beaucoup Nicolas.
Merci Sophie.
Europe 1.
En attendant, on prend nos quartiers d'été avec 2 destinations à suivre. La croisière, l'occasion de s'interroger sur l'impact environnemental de ces immenses bateaux sur les côtes. Et puis on ira se mettre au vert à la datcha en Russie, bien sûr.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h sur Europe 1. Nous sommes le 7 juillet. Pour les enfants, c'est vraiment les vacances. Et pour leurs parents, parfois aussi. Alors les carnets se mettent au diapason, Sophie Larmoyer.
Je vous propose 2 destinations magnifiques pour bien attaquer la pause estivale. Avec des vacances à la russe, je vais vous emmener à la datcha, la maison de campagne héritée de l'ère soviétique. Mais d'abord, la croisière s'amuse. On a tous l'image de ces géants des mers, ces immeubles flottants qui attirent de plus en plus de croisiéristes. En Europe, le succès des croisières ne se dément pas. Plus de 7 millions de passagers en 2018, 20 milliards d'euros de retombées économiques. Mais il y a un revers sérieux à la médaille. En se démocratisant, ces immenses bateaux polluent de façon massive. C'est ce que dénonce un rapport de l'ONG Transport et Environnement dévoilé le mois dernier. Les ports de la Méditerranée sont évidemment en première ligne. Palma de Majorque aux îles Baléares est la 2e ville la plus exposée à cette pollution en Europe, juste derrière Barcelone. Henri de Laguérie s'est rendu sur place. Reportage au bord de l'eau.
Tiens, tu entends? Ces bruits de bateaux, ces coups de klaxon, c'est ça toute la journée.
Nous sommes sur la terrasse de César, un habitant du quartier portuaire d'El Terreno. Devant chez lui, il y a un terrain de basket, ensuite une grande rue. Et au loin, la Méditerranée, malgré quelques immeubles de part et d'autre, la vue est dégagée. Le problème, c'est qu'en été, ce n'est pas souvent comme ça.
Tu vois que là, on voit la mer et même l'autre partie de la baie de Palma. Mais à partir de 20h, il y a toujours un immense bateau de croisière avec ses lumières et sa musique qui vient se mettre devant. C'est comme s'il construisait un immeuble en face de chez moi. Et là, c'en est fini de notre tranquillité. Les moteurs restent allumés 24 heures sur 24. On entend la musique du bateau. On ne voit pas la mer. La seule chose qu'on a devant nous, c'est un nuage de pollution et du bruit.
Aujourd'hui, quatre bateaux passent la journée dans le port de Palma. Parmi eux, l'un des plus grands au monde, l'Oasis of the Seas et ses 8000 personnes à bord. En tout, cet été, 300 navires sont attendus. C'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. Depuis le port et dans les ruelles du quartier accrochées à une colline, on voit les immenses cheminées des bateaux qui recrachent la fumée. Il fait 36 degrés, il n'y a pas de vent. Les autorités portuaires informent que la qualité de l'air est passée en zone rouge. César vit avec cette pollution au quotidien.
Tu t'en rends compte parce que tu as la gorge qui devient sèche et tes yeux qui piquent. L'ambiance est plus lourde, il n'y a pas d'air. Et ensuite, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une espèce d'odeur de pourri qui vient d'arriver là. Et bien ça, ça arrive souvent.
Les super paquebots utilisent du fioul lourd non raffiné. C'est le carburant le plus sale qui existe. Voilà de quoi inquiéter les habitants qui ont lancé une pétition. Ils demandent aux autorités locales de limiter le nombre de bateaux de croisière à un seul par jour et celui des visiteurs quotidiens à 4000. Pour Guillermo Gaya, porte-parole de l'association des habitants du quartier, c'est une question de santé publique.
Palma, c'est la deuxième ville la plus polluée par les bateaux de croisière après Barcelone. Et Palma est beaucoup plus petit que Barcelone. C'est-à-dire on est un quart de la population de Barcelone. Et les émissions de dioxyde de soufre des bateaux de croisière à Palma, ça représente 10 fois les émissions de toutes les voitures et les camions qui roulent à Palma. Donc évidemment qu'on est très préoccupé des effets sur notre santé.
Autour de la cathédrale de Palma, les groupes de touristes se pressent. On reconnaît les croisiéristes car ils sont accompagnés d'un guide. Monique est lyonnaise. Elle passe un séjour d'une semaine à bord du MSC Fantasia, un hôtel flottant de 333 mètres de long qui accueille entre 3 et 4 000 passagers. Au programme Marseille, la Sicile, les Baléares et la Catalogne. Monique n'est pas indifférente à la pollution des bateaux, mais pas au point de renoncer à ses vacances.
Quelle planète on laisse à nos gamins, hein. C'est clair, moi j'en ai et je ne suis pas fière. Mais après, si les 3000 personnes du bateau prenaient l'avion, prenaient leur voiture, je pense qu'on en arriverait également à des taux de pollution énormes. On n'a rien pour l'instant, on n'a pas d'alternative à ça. Après, on pourrait peut-être faire mieux, essayer de couper les clims quand les gens ne sont pas à bord, avoir des compagnies qui soient un peu plus vertes.
À Palma comme à Barcelone, Venise ou Lisbonne, les habitants expriment depuis plusieurs années leur ras-le-bol face au tourisme de masse. Le combat contre la pollution des bateaux s'ajoute à cette grogne anti-vacanciers. Et en même temps, pour les îles Baléares par exemple, le tourisme représente 80% de l'économie. Juani tient une boutique de vêtements dans le centre-ville.
On vit du tourisme et des bateaux de croisière. J'aimerais qu'il y en ait davantage pour assurer le chiffre d'affaires de ma saison. Elle ne dure que 4 mois. Ensuite, l'hiver est très long et la vie est très chère.
Guillermo temporise, il ne s'agit pas de faire la chasse au tourisme, il faut le réguler et faire pression auprès des compagnies de bateaux pour qu'elles deviennent moins polluantes.
Nous ne sommes pas contre les bateaux de croisière, mais nous ne voulons pas 15 000, 20 000 touristes de bateaux de croisière tous les jours. Si on détruit ce qui est attirant de notre île, la tranquillité, la qualité de l'eau, le paysage, si on détruit ça, c'est vraiment aller contre le même touriste qui cherche ce que nous sommes en train de protéger.
La pétition pour réduire la présence des bateaux a déjà été signée par près de 10 000 personnes. Conscient du problème, le gouvernement régional étudie la possibilité d'envoyer une partie des paquebots vers d'autres ports de l'île. Palma, Henri de la Guérie, Europe 1.
Voilà, et on va maintenant dans une autre ville portuaire d'Espagne, juste en face à Barcelone, pour retrouver Henri de la Guérie. Bonjour Henri.
Bonjour Sophie.
Alors on l'a dit, hein, l'ONG Transport et Environnement a publié il y a un mois une étude alarmante sur le niveau de pollution émis par les gros bateaux de croisière. Plus de 200 navires ont été analysés et selon ce rapport, les navires de la compagnie américaine Carnival, qui est leader mondial de la croisière de luxe, ont émis à eux seuls, en 2017, 10 fois plus d'oxyde de soufre autour des côtes européennes que l'ensemble des voitures du continent, donc des 260 millions de véhicules du parc européen. Ça fait évidemment beaucoup. Henri, vous avez contacté les grandes compagnies de croisière. Que répondent-elles face aux chiffres accablants de ce rapport ?
Alors, elle les conteste, hein, ces chiffres. Pour elle, c'est une enquête peu rigoureuse qui n'a pas de base scientifique. C'est Herminio Echena, le président de CLIA, l'association qui regroupe tous les acteurs du secteur, qui m'a répondu en avançant que ce classement était uniquement basé sur des études théoriques, des suppositions, mais pas des mesures. L'ONG a analysé les mouvements des bateaux, elle a retracé tous les trajets, mais les données ne viennent pas des compagnies directement. Elles n'ont d'ailleurs pas été contactées. Alors, ceci étant dit, Sophie, on comprend que ce sujet préoccupe le secteur. Parce que les touristes sont évidemment de plus en plus sensibles à la protection de l'environnement. On le sait, dans le nord de l'Europe notamment, certains voyageurs commencent à renoncer à l'avion. Et pas impossible que ce mouvement s'étende au bateau.
Oui, évidemment, un tel rapport, c'est de la mauvaise pub. Alors, les compagnies contestent l'étude, mais d'autres sources pointent aussi des niveaux de pollution énormes. L'organisme chargé d'étudier la qualité de l'air en région PACA, par exemple, a indiqué que les émissions de dioxyde d'azote, cette fois, émis par les bateaux en 2018, l'an dernier, ont pour la première fois été plus importants que les rejets routiers. En quelques mots, Henri, expliquez-nous pourquoi ce degré de pollution des méga-paquebots ?
Alors d'abord, comme on l'a entendu dans le reportage, le fioul lourd non raffiné, c'est le plus polluant, avec une teneur en soufre bien plus importante. En Méditerranée, c'est autorisé, alors que les normes sont plus strictes dans le nord de l'Europe, par exemple. Et puis, quand ils sont à quai pour continuer à alimenter leurs installations électriques à bord, la climatisation ou les frigos, par exemple, eh bien, les navires font tourner des groupes électrogènes alimentés en carburant marin. Un exemple cité par le directeur d'Air PACA. Un paquebot moyen, amarré à quai, consommera encore environ 700 litres de fioul par heure, ce qui produit des rejets dans l'atmosphère équivalent de 10 à 30 000 véhicules.
Ouais, quels que soient les chiffres, on comprend qu'il y a quand même un vrai problème. J'imagine que les compagnies en ont conscience. Qu'est-ce qu'elles mettent en place pour essayer de réduire l'impact de leurs géants des mers sur l'environnement, à la fois sur l'air et sur l'eau ?
Oui, alors il y a deux pistes de recherche et d'action. D'abord, faire évoluer les moteurs pour qu'ils soient plus propres et puis permettre aux bateaux de s'alimenter à l'électricité quand ils sont à quai. Jordi Vila est le responsable environnement du port de Barcelone, rappelons-le, la ville la plus touchée en Europe par cette pollution. Il nous parle des évolutions à venir.
Entre 2020 et 2025, une bonne partie des quais sera électrifiée. Les bateaux qui font escale pourront se connecter. Ça leur évitera d'utiliser leurs moteurs à bord. Et puis, on essaye aussi de promouvoir le gaz naturel, un combustible plus propre. Et si on regarde un peu plus loin, à l'horizon 2030-2040, on devrait pouvoir travailler avec des combustibles zéro carbone, des combustibles à base d'hydrogène qui ne pollueront pas et n'émettront pas de gaz à effet de serre.
Voilà, et parmi les bons élèves, il y a Marseille, justement, qui développe son offre de connexion électrique à quai avec un plan d'investissement de 20 millions d'euros. Plusieurs bateaux s'alimentent déjà comme ça.
Marseille qui était en 8e position, je crois, dans l'étude des ports les plus pollués. Les bateaux zéro émission, ça va vraiment arriver, Henri ?
À terme, c'est ce que recherchent certaines compagnies. Là encore, c'est au nord de l'Europe qu'on est le plus vertueux. En Norvège, le MS Roald Amundsen vient tout juste d'être livré à la compagnie Hurtigruten. C'est un navire hybride à propulsion partiellement électrique et qui permet de réduire les émissions polluantes de 20% par rapport aux bateaux traditionnels de même dimension. C'est un navire d'exploration avec 265 cabines. Il partira jeudi prochain de Hambourg pour son premier voyage vers les fjords norvégiens, puis au Groenland cet été.
Ouais. Et puis il y a aussi quelques premiers bateaux en construction qui fonctionneront au GNL, le gaz naturel, qui provoque moins d'émissions. Donc des premières solutions existent, la prise de conscience est bien là. Et on verra surtout, vous le disiez Henri, si le public continue à plébisciter ce type de vacances. Merci beaucoup Henri, très bel été à vous.
Très bel été Sophie.
Autre destination après la mer, la campagne et même les forêts de Russie. On va goûter ensemble aux traditionnelles vacances à la datcha. Dans l'Union soviétique d'après-guerre et jusqu'à la chute de l'URSS, l'État distribuait des lopins de terre aux travailleurs pour qu'ils y construisent leur maison et cultivent leur terrain. Donc on peut dire aujourd'hui que ces datchas sont en quelque sorte la partie agréable de l'héritage soviétique. Elles sont en tout cas la garantie de vacances au vert, même pour les plus défavorisés. Et surtout, la datcha, c'est un lieu de souvenirs, de mémoire, de partage et de communion avec la nature. Reportage en banlieue de Moscou de notre correspondante Elena Voloshin.
Avec mon ami Andrei, réalisateur pour la télévision russe, nous voici en voiture au sortir de Moscou, sur l'autoroute de la datcha.
Du vendredi soir au samedi, tout le monde quitte Moscou pour aller à la datcha et c'est l'enfer sur les routes. C'est pourquoi il vaut mieux partir soit le vendredi soir, soit très tôt le samedi matin.
Nous bifurquons sur un chemin de terre cabossé qui mène au lotissement construit en pleine forêt.
Ah ou, toc toc, y a quelqu'un à la maison ?
Comme la plupart des retraités russes, les parents d'Andrei passent une bonne partie de leur été à la datcha.
Ah, salut !
Salut ! Tu as ramené la tente ?
Oui.
Dieu soit loué.
C'est parti pour une visite guidée de leurs 1200 m² de terrain avec Vladimir et Tamara, les parents d'Andrei.
Voilà nos petites fraises qui poussent. Là les tomates, déjà en fleurs.
Et voilà mes petites fleurs. Nos pivoines étaient extraordinaires, leur floraison est déjà terminée.
Mais avant qu'Andrei n'achète le lopin de terre du voisin, il n'avait que 600 m².
Parce qu'il n'en donnait pas plus.
La norme, attribuée par l'État soviétique aux travailleurs à la fin des années 80.
J'étais sur liste d'attente depuis 1977 et je n'ai obtenu ce lopin de terre qu'en 89. Je travaillais alors au Gosplan, c'était le comité de planification d'État du Conseil des ministres de l'URSS. Et tous ceux qui avaient obtenu des terrains, eh bien le Gosplan les emmenait ici en bus. Et armés de haches et de scies, nous avancions dans la neige jusqu'aux genoux, comme un tracteur, et nous déforestions.
Ensuite seulement, lorsque les géodésiens sont venus et ont défini les terrains, il a tiré le numéro 38.
On a tiré au sort et on a obtenu ce terrain. C'était chacun sa chance. Certains ont eu de la chance, d'autres moins. Il y avait en tout 35 souches d'arbres ici, donc on a dû les arracher, évidemment. C'était dur, mais c'est rien, on était jeunes, on abattait des montagnes.
Et pour construire la maison en bois de 2 étages, ce fut encore toute une histoire.
Aujourd'hui, on peut tout acheter, mais à l'époque, il fallait avoir des connaissances. Alors le directeur de l'Office des forêts est venu me voir au Gosplan. Il m'a demandé une faveur.
Il t'a demandé quoi ?
Ce qu'il m'a demandé, je lui ai donné. Et en échange, j'ai eu des poutres. Parce que chaque poutre devait peser 105 à 110 kilos. Et à nous trois, nous avons charrié 105 de ces poutres depuis la route là-bas jusqu'ici, à travers le marécage.
Parce que la voiture ne pouvait pas accéder à notre terrain, il n'y avait tout simplement pas de route.
Aujourd'hui, à l'heure d'Atcha, Andrei et sa famille n'ont toujours pas de canalisation ni d'eau courante. Mais ils ont pour voisins d'autres ex-travailleurs du Gosplan pour partager la nostalgie de cette époque. Comme Tatiana et son mari Alexei.
Sur notre terrain ici, nous faisions un feu, mes fils jouaient de la guitare et tout le monde se rassemblait chez nous.
Pendant 10 ans, on n'avait pas de lumière. Pas de lumière.
Ces difficultés, on les surmontait si facilement. Aujourd'hui, tout est différent.
Oui, tout le monde s'est barricadé derrière des clôtures. Avant, il n'y avait pas de clôture.
Si l'URSS distribuait des lopins de terre aux travailleurs, c'était pour qu'ils assurent eux-mêmes leur subsistance. Alors, l'automne venu, Tamara, la maman d'Andrei, sortira comme toujours ses bocaux de ses étagères.
Là, ce sont des bocaux de 3 litres. Je mets les concombres, je les noie dans la marinade chaude, je ferme et je retourne. Pareil avec les tomates. Ça permet de tenir jusqu'à l'été prochain. On n'achète pas, même s'il y a tout ça dans les magasins.
La datcha, c'est du travail. Mais c'est avant tout un havre de paix.
Après l'hiver à Moscou, on a hâte de retrouver cette sensation de paix qu'il y a ici. Mon Dieu, et ce silence qu'on entendrait presque.
Ah, ici, c'est le repos de l'âme, du corps et de l'estomac.
Dans la région de Moscou, en pleine forêt, Elena Voloshine, Europe 1.
Elles sont pas belles, ces vacances à la datcha ?
Europe 1.
On referme cette page-là pour en ouvrir une autre, plus urbaine. Dans quelques instants, je vous emmène découvrir des cafés un peu spéciaux, un peu cachés, en Égypte et en Afghanistan.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec vous, Sophie Larmoyer. Et maintenant, à 13h41, on vous emmène au café. Quand on est jeune et qu'on a un peu le temps, l'été par exemple, on aime bien se retrouver au café ou au pub, aller boire un verre, écouter un groupe de musique. Pourtant, il y a des pays où ce simple rendez-vous entre copains est rendu très compliqué, surtout si les copains sont des filles et des garçons ensemble. En Égypte, il existe des appartements transformés en cafés et lieux culturels. Ce sont les derniers interstices de liberté dans une société largement verrouillée. Reportage au Caire d'Ariane Lavrieux. On se glisse dans ses pas.
Sur la place Tahrir, le brouhaha des voitures ne tarit jamais. Et pourtant, tout près de là se cache un petit havre de paix. Dans un vieil immeuble, il faut grimper au 6e étage, pousser la porte entrebâillée d'un appartement rebaptisé Café Haïfa. Bonsoir, c'est ouvert ?
Ok.
Ah cool, merci. Dans les trois pièces, les murs sont couverts de dessins colorés, de pots de fleurs, de portraits d'artistes égyptiens. À côté de jeunes entrepreneurs, collés à leur écran, des amoureux se tiennent la main. Pour Myrna, cette atmosphère décontractée est une soupape de liberté.
Dans les cafés ouverts sur la rue, tout le monde t'observe, il n'y a pas d'intimité. Les cafés populaires sont plutôt réservés aux hommes, donc on te regarde comme si tu faisais quelque chose de mal. Par exemple, je n'ose pas fumer dehors, parce que les gens pensent que la cigarette, c'est pour les hommes seulement. Alors que ce café me donne l'espace d'être comme je suis.
Les patrons de ce café, Sameh et Mohamed, n'ont même pas 25 ans. L'idée a germé dans le sillon de la révolution qui a renversé Hosni Moubarak il y a 8 ans.
Les cafés dans les appartements se sont développés après la révolution, parce que les gens ne pouvaient plus s'installer librement dans les cafés normaux. À tout moment, les autorités peuvent venir et confisquer les chaises. Dès qu'il y a une crainte sécuritaire ou un peu d'agitation sur Internet, ils ferment les cafés du centre pour éviter les rassemblements.
Oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont peur d'aller au café que les gens viennent chez nous. Non, c'est vraiment qu'ils aiment l'idée d'un lieu qui leur ressemble, comme à la maison. On a des clients qui viennent travailler ici. Ils sont freelance dans le design ou les médias sociaux. On cherche tous un moyen de développer notre personnalité et de travailler pour pouvoir vivre. On projette des films, on fait des activités artistiques, mais la politique, c'est fini.
Pour les jeunes diplômés, frappés par un chômage de masse et confrontés à un espace public de plus en plus restreint, les cafés d'intérieur sont autant des refuges que des lieux de création. Dans un autre immeuble, on peut venir siroter un jus, emprunter un livre ou improviser dans le studio ouvert à tous.
T'entends l'acoustique ici ? C'est incroyable.
C'est génial d'improviser. C'est ma deuxième fois. J'ai commencé à apprendre la musique il y a seulement 2 mois. Donc je veux pratiquer avec d'autres pour pouvoir m'améliorer.
Afriquero, c'est le nom de ce café hybride créé par Ahmed Omar, d'origine égypto-érythréenne. Ce musicien, déjà connu, veut mélanger les cultures africaines et tenter coûte que coûte de maintenir la scène musicale kérote en vie.
C'est un défi. On a ouvert cet endroit il y a un an et on galère toujours. On paye les factures, mais on ne retire aucun bénéfice. Rien que les permis, les papiers, tout ça nous a coûté près de 800 euros. Et l'équipement pour le son, c'est très cher. Il y a un mois, j'ai failli tout fermer. Mais je veux me battre pour cette idée, pour nous maintenir en vie et construire une nouvelle génération. Beaucoup de musiciens ont arrêté la musique, changé de carrière ou quitté l'Égypte parce qu'il n'y a plus assez de scènes. Et la création risque de mourir. On doit la sauver avec des petits endroits comme le nôtre, dans des immeubles.
En dehors des mini-concerts, le café Afriquero organise aussi des soirées scènes ouvertes pour les jeunes humoristes. Sexualité, politique, aucun sujet n'est interdit dans cet espace, fermé par 4 murs. Au Caire, Ariane Lavrieux, Europe 1.
Voilà la liberté entre 4 murs comme une grande bouffée d'oxygène. Et c'est aussi ce que vivent certains jeunes à Kaboul. C'est là que je vous emmène maintenant. Vous savez, la capitale afghane est aujourd'hui l'une des villes les plus dangereuses au monde. Lundi dernier encore, l'explosion d'une voiture conduite par un kamikaze a fait 6 morts, des dizaines de blessés, dont des écoliers. Attentat revendiqué par les talibans. Et malgré ce contexte, la jeunesse essaye de préserver quelques bulles de liberté, notamment dans ces cafés, un peu à l'écart. On a la chance d'y aller avec Margot Ben, qui est allée à la rencontre des jeunes.
Un grand jardin bordé de roses, une terrasse où fume un jeune homme à l'air rêveur et, à l'intérieur, une pièce joliment décorée où sont attablés des jeunes aux vêtements occidentaux qui boivent du thé et fument le narguilé. Bienvenue à Tajbegoum, un café branché de Kaboul.
Je m'appelle Essora.
Essora, 30 ans, a laissé tomber son voile jaune sur ses épaules. Elle fume et s'amuse à faire des cercles de fumée avec sa bouche pour faire rire ses amis, trois jeunes femmes et un homme.
Chaque jour, en fin d'après-midi, on vient ici pour boire le thé et fumer la chicha.
La jeune femme est étudiante en master tout en travaillant pour une ONG internationale. Comme elle, les clients du café sont étudiants ou artistes, souvent issus de la classe moyenne de Kaboul. Mais la plupart des Kaboulyotes, plus pauvres et issus de milieux plus conservateurs, n'ont jamais mis les pieds ici. Et même Essora et ses amis doivent cacher à leur famille qu'ils se réunissent dans un lieu mixte pour fumer.
Elle ne peut pas dire à la radio le nom de l'ONG pour laquelle elle travaille. Oui, peut-être que ma famille pourrait me reconnaître et ce ne serait pas bon pour moi, désolée.
En Afghanistan, la plupart des cafés et restaurants sont fréquentés uniquement par les hommes. Mais au centre-ville de Kaboul, de plus en plus de jeunes entrepreneurs ouvrent des cafés branchés, des endroits où l'on se retrouve pour discuter de politique et de littérature sur fond de musique occidentale.
Ici, au centre-ville, on se sent libre. C'est ça la liberté, c'est ça la démocratie. Voilà pourquoi on vient ici. Bien sûr, la situation dépend d'où on habite à Kaboul, mais il y a déjà du progrès. On a tous besoin de temps, le gouvernement a besoin de temps, même nous les Afghans, on a besoin de temps.
À la table d'à côté, Masdar, une étudiante en droit criminel de 19 ans. Elle allume une cigarette avant de glisser sa main dans celle de son petit ami. Jamais, en dehors de ce lieu, il ne pourrait se permettre cette audace, être vu main dans la main. Mais Masdar craint que cette liberté ne soit compromise. Si les talibans revenaient officiellement dans le jeu du pouvoir, comme cela se profile avec la bénédiction des États-Unis, ce serait la fin des cafés mixtes et branchés.
Même aujourd'hui, beaucoup de femmes afghanes n'ont même pas la sensation d'être des êtres humains. Moi, j'ai la liberté de venir au café avec mon amoureux, d'allumer cette cigarette. Je dois me cacher, mais je peux encore le faire. Si je perdais ce petit espace de liberté, je ne sais pas ce que je ferais. Je préfère leur faire face sur le champ de bataille plutôt que d'être leur prisonnière.
Dans un autre district, connu comme le quartier des artistes, Ramin, poète, boit un jus de grenade frais à Shahr-e-Kitab, la ville des livres. C'est le nom de ce café littéraire fondé par une jeune féministe, devenu un lieu de rencontre et de débat pour les artistes.
Il y a quelques mois, j'ai organisé avec les gérants de Shahr-e-Kitab une session de lecture de poèmes dans le café. Je pensais qu'on serait face à une salle vide, mais au final, elle était pleine à craquer. Puis mes amis m'ont taquiné en disant qu'on risquait de m'envoyer une chaussure à la figure en pleine lecture. Mais à la surprise générale, j'ai une standing ovation.
Ramin est un optimiste. Il est persuadé que les talibans n'auraient aucune chance d'imposer à nouveau leur règne de terreur.
Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les jeunes des années 90 quand les talibans sont arrivés au pouvoir. L'expérience de ma soirée montre que notre société est prête à défier la mentalité talibane et que nous ne sacrifierons nos libertés à aucun prix.
À Kaboul, les cafés continuent d'attirer de plus en plus de jeunes. Une poignée de restaurants offre même de l'alcool, normalement illégal. Et parfois, on peut même y danser jusqu'au bout de la nuit. À Kaboul, Margot Ben, Europe 1.
Voilà, bouffée d'optimisme, hein, à coup de soirée littéraire pour ces jeunes, malgré une situation bien sombre en Afghanistan, avec des talibans qui ont élargi leur contrôle sur une partie du pays et qui refusent de discuter avec le gouvernement officiel de Kaboul.
Europe 1.
Et c'est un autre optimiste qui nous rejoint dans un instant, Joseph Chovanec, pour un dernier petit voyage en Autistan, dernier de la saison.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec vous, Sophie Larmoyer. Et il est venu boucler l'émission avec nous, Joseph Chovanec, qui nous emmène aujourd'hui encore pour un petit voyage en Autistan.
L'autistan, c'est un peu partout, car c'est surtout une manière de poser un regard singulier, différent, un regard teinté de philosophie, d'autisme et d'une grande curiosité sur le monde et sur les autres surtout. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors vous avez découvert ces derniers jours un festival qui vous a mis en joie littéralement.
Et oui, à Prague se tient le Festival International des Bricoleurs. C'est la preuve ultime que Harry Potter, le village, Trumpf, tout ça, ce sont des mondes bien réels quand on en trouve le chemin.
Et vous m'aviez caché cette passion pour le bricolage ?
Non Sophie, je dois vous faire un pénible aveu, je ne suis pas du tout bricoleur. Mais je n'en admire que davantage les vrais bricoleurs et dans mes voyages j'en ai croisé beaucoup. Mmh. La fin de l'année nous incite aux souvenirs. Mmh. Je crois que le meilleur moment de 2018 pour moi fut ce jour d'été où j'ai osé louer un vélo, aller dans les forêts profondes de la Finlande. Je suis tombé là-bas sur de vieilles habitations en bois bien sûr, réaménagé dans une sorte de musée informel. On y voyait la vie au 19e siècle, une vie de bricolage où des gens bizarres vivant dans la forêt devaient tout faire eux-mêmes. Inventer le piège à lynx, par exemple. Bricoler pour créer des dispositifs de pêche, pour sécher les poissons, etc. L'absence de lien social, la vie solitaire, l'autisme peut-être, tout ça, ça va de pair avec le bricolage.
Mais au fin fond des forêts, pas le choix, il faut savoir bricoler.
Et oui, Sophie, et plus on monte vers le bord extrême du monde, plus c'est vrai. Hein, plus les bricolages deviennent singuliers. Dans le très rude environnement polaire des îles Svalbard, à environ 1000 km du pôle Nord, j'avais été frappé de constater que finalement tous les artefacts humains relevaient du bricolage absolu, qui parfois marchait. Parfois non. Aïe. Dans ce dernier cas, on retrouvait généralement à proximité les ossements blanchis par le gel du malheureux. Sur l'une de ces tombes, je me souviendrai toujours du message laconique qui avait été apposé. Son fusil artisanal s'est enrayé. Ce n'est que très récemment que des objets standardisés ont commencé à se diffuser en cette ère extrêmement reculée. Et encore.
À l'inverse, il existe une tendance ces derniers temps, Joseph, qu'on appelle le do-it-yourself. Oui. Faites-le vous-même, d'où les festivals de bricolage d'ailleurs.
Oui Sophie, c'est une réaction à la standardisation excessive des choses en Occident. Ici en Occident, les maisons sont standardisées, les voitures aussi. Mais ailleurs, dans les déserts d'Iran, en Asie centrale, en Sibérie, j'ai roulé dans des voitures inclassables qui étaient des œuvres d'art, assemblage d'éléments disparates tenus ensemble par un épais câble, ainsi sans doute par la grâce de Dieu. Inclassable, mais aussi incassable, quand on connaît l'état des routes, quelle voiture occidentale y tiendrait. Mais j'ai une pensée émue pour ces camions bricolés, bien sûr, mais sublimement peints par-dessus le marché qui sillonne le Pakistan, l'Afghanistan et ses routes infinies de montagnes.
Donc c'est un éloge du bricolage, mais aussi comme source de création.
Oui, source de création venue de gens différents. Parce que la standardisation, la réduction de la palette des possibles de nos objets est à l'image de la normalisation de nos vies, nous autres habitants de l'extrême Occident. Il faut préserver une place pour une existence de type laboratoire ambulant. C'est par cette expression-là que mon ancien employeur, Amou Bouakaz, aveugle de naissance, définissait le handicap. Peut-être qu'il ne nous sera jamais donné de prendre les routes périlleuses qui franchissent les montagnes arides de l'Asie centrale, mais que au moins nous sachions continuer à cheminer, à savoir faire transhumance sur les sentiers reculés du pays étrange que nous avons exploré ensemble, à savoir l'Autistan. En Afghanistan, au moment de l'adieu, on dirait en langue d'Ari « Khodgol boshiva omretnaï »« Sois-t-elle la fleur, mais que ta vie soit plus longue. »
Et on ne va pas se dire adieu, mais au revoir. Merci beaucoup Joseph pour toutes ces routes sur lesquelles vous nous avez guidé cette année encore, ces souvenirs partagés qui nous incitent à ouvrir les yeux un peu plus grands sur le monde qui nous entoure et d'en faire nous aussi un laboratoire ambulant. Bel été à vous, Joseph.
Merci. Europe 1.
Clap de fin, il est temps de refermer les carnets du monde et de ranger ce tome 13 sur l'étagère, pas trop loin pour pouvoir le consulter quand on en a envie. C'est toujours possible, vous savez, sur europe1.fr. Un très grand merci à tous de nous avoir accompagnés tout au long de cette année, d'avoir vadrouillé avec nous. Un grand merci aussi à celles et ceux qui font les carnets. Sophie Mallier à la réalisation, Florence Gimalac à la production et tous les reporters qui nourrissent les carnets et nous font voyager. On sera là à la rentrée pour une 14e saison des carnets avec beaucoup de bonheur. Et tout l'été, on confie les clés à Nicolas Carreau de 13h à 14h le dimanche. Portez-vous bien.